Au Mali, la France met tout en œuvre pour empêcher les Maliens de s'unir. Afin d'accentuer la pression sur la junte militaire afin de les faire plier, le président français avait lancé un coup de bluff qui était d'abord de stopper définitivement l'opération Barkhane. Ensuite, il a été question de changer de nom de cette opération, mais visiblement maintenant, on peut constater qu'en fait, Barkhane est parti pour mieux rester. Mais ce qui dérange surtout Paris, c'est la volonté des Maliens de s'unir afin d'instaurer la paix et la sécurité dans le pays, mais également pour mettre à la porte la France. Les autorités maliennes affirment avoir été informées de la reprise des opérations militaires conjointes entre les deux pays par un canal diplomatique bien avant la publication du communiqué officiel. Récemment, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu à Bamako une délégation française composée notamment de Franck Paris, le conseiller Afrique de l'Élysée, ainsi que l'amiral Jean-Philippe Roland, chef d'état-major particulier du président français Emmanuel Macron. Mais le culot atteint son apothéose lorsque le média mensonger RFI titre son article « La reprise de la coopération entre armées françaises et maliennes, un besoin réciproque ». Plusieurs experts interrogés ajoutent que Bamako avait besoin de cette reprise des opérations conjointes, mais Paris aussi. Le média relaie que d'après leurs informations, dès cette semaine, militaires maliens et français devraient recommencer à traquer ensemble sur le terrain ceux considérés par Paris comme étant des terroristes, en d'autres termes, les Maliens. Le média déclare que l'interruption de cette coopération militaire annoncée il y a un mois par Paris, au lendemain du deuxième coup d'État à Bamako, présentait selon lui des risques de radicalisation islamiste au Mali. Et d'ajouter, arrêter la coopération pouvait pousser une partie de l'armée malienne à faire davantage de concessions aux terroristes. Ces derniers mois, de plus en plus de Maliens et même de Sahéliens se sont rendus compte qu'il était possible d'instaurer donc la paix dans leur pays en appuyant les forces de sécurité nationale, mais également grâce aux accords de paix que les populations mettent en place. Donc, une bonne partie du problème devrait pouvoir se régler par la population sahélienne qui appuierait donc l'armée nationale, comme ce que fait donc en l'occurrence le Burkina Faso. Les nombreuses manifestations demandant le départ de Barkhane et compagnie se multiplient à travers les pays du Sahel et un nouveau G5 Sahel est en train de se mettre en place, non pas entre les gouvernements, mais bien entre les populations. Certains analystes affirment que les leviers de pression sont trop grands sur les gouvernements des pays du Sahel et c'est pour cela également que la France arrive à chaque fois à s'accaparer des autorités en place, qui que ce soit. Selon ces experts, seules des populations sahéliennes peuvent diminuer les leviers de pression, mais également mettre dehors les occupants. Les plans donc, que met en place l'axe occidental, c'est de relancer la colonisation de l'Afrique aussi bien de ses terres que de ses mers. C'est pourquoi la France met tout en œuvre pour garder sa présence, ou comme le dit l'Élysée, garder sa coopération militaire avec l'armée malienne. Mais la population malienne et sahélienne veulent coopérer ensemble et non avec les occupants occidentaux. En Éthiopie, toujours aucune condamnation réelle de la part de la communauté internationale concernant les exactions des rebelles terroristes dans la région du Tigré. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le gouvernement éthiopien, et mais aussi les rebelles terroristes, à mettre en place un véritable cessez-le-feu. La région du nord de l'Éthiopie est de nouveau sous contrôle des forces de défense du Tigré, selon les médias mainstream, et depuis mardi dernier, mais les combats serait toujours donc en cours et l'aide humanitaire est quasiment gelée. Les médias mainstream qui endossent le rôle de porte-parole des groupes terroristes en Afrique relayent les informations du leader des rebelles terroristes tigréens. Une interview a été faite pour le New York Times. Après son retour en héros, entre guillemets, dans la capitale provinciale Mekele, l'ancien président de la région et président du TPLF dresse un bilan de ses 8 mois de guerre. Un bilan personnel tout d'abord. « Je ne pensais pas en sortir vivant », avoue-t-il, accusant au passage les Émirats arabes unis d'avoir déployé des drones pour épauler les armées éthiopiennes et érythréennes. Puis, dans un discours aux accents donc sécessionnistes, il pose la question de l'avenir du Tigré au sein de l'Éthiopie. La confiance a été rompue. Pourquoi devrions-nous rester ? Demande-t-il. Cependant, la communauté internationale s'inquiète de ce qui ressemble de plus en plus à un blocus humanitaire imposé sur la région. En effet, aucun avion ni aucun camion n'ont pu encore approvisionner la province depuis lundi dernier. Bien que les forces tigréennes aient publiquement annoncé qu'elles voulaient collaborer avec les ONG, une travailleuse humanitaire révèle que très peu de progrès ont été faits jusqu'à présent dans ce domaine. Des conditions imposées pour respecter un cessez-le-feu ont l'air d'être approuvées par la communauté internationale. Et pour cause, la condition sur laquelle le TPLF met l'accent, c'est surtout la collaboration et l'accès sans entrave avec les ONG et non les aides humanitaires qui proviennent du gouvernement éthiopien. Mais ce qui est assez étonnant et contradictoire, car ces mêmes rebelles terroristes ont détruit le pont sur la rivière Tekezé. Ce point est tout d'abord comme une frontière naturelle, mais est extrêmement stratégique au niveau militaire également. Mais l'aide humanitaire qu'apporte Addis Abeba aura beaucoup de difficultés à atteindre la population du Tigré. Mais nous ne voyons toujours aucune condamnation de la communauté internationale concernant cet acte. Le but des rebelles terroristes du TPLF, c'est d'instaurer un blocus humanitaire afin de pousser la communauté internationale à intervenir sans une approbation des autorités éthiopiennes. Mais surtout, l'objectif est de faire venir les ONG et l'ONU dans la région afin que les TPLF reçoivent donc des armements et des vivres de leur part pour pouvoir continuer leur guerre et déstabiliser le pays. Plusieurs ONG craignent d'ailleurs que l'aide humanitaire soit bloquée au Tigré depuis la reprise de la province par le TPLF le 29 juin. Depuis, les opérations d'assistance aux populations sont presque gelées à cause des combats. Jeudi 1er juillet, un pont stratégique pour l'approvisionnement a été détruit, mettant en péril le soutien humanitaire dans la région. Dernièrement, lors de la réunion donc du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant kényan a déclaré que le Conseil devrait laisser un espace pour que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Il a également réitéré que la communauté internationale doit accepter la décision du gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu et d'un accès humanitaire sans entrave au Tigré. Il a également exprimé son inquiétude quant à la destruction du pont Tekezé par le TPLF par opposition au cessez-le-feu qui entrave les efforts humanitaires. De leur côté, la Chine, l'Inde et la Russie se sont rangés donc du côté de l'Éthiopie en saluant la déclaration de cessez-le-feu et les efforts d'Addis Abeba de fournir l'aide humanitaire nécessaire pour la population du Tigré et la volonté du gouvernement éthiopien de réhabiliter les infrastructures détruites par le TPLF dans la région. Avec leurs multiples condamnations à l'encontre du gouvernement éthiopien, les pays occidentaux ont montré maintenant leur volonté de vouloir démembrer l'Éthiopie et de faire de la région du Tigré une base terroriste qui pourrait à la fois nuire non seulement à l'Éthiopie mais également à l'Érythrée. Pour eux, l'Éthiopie ne doit en aucun cas se développer, mais également Addis Abeba ne doit en aucun cas se tourner vers les puissances de l'Est. Tout comme avec les pays du Moyen-Orient, ces pressions occidentales donnent l'effet inverse et encouragent justement les pays concernés à favoriser les alliances régionales et également les alliances entre les pays qui sont dans le collimateur de Washington. Au Burundi, le 1er juillet, le pays a fêté son indépendance, pays qui est sorti officiellement au niveau du droit international de la colonisation belge et précédemment allemande, le dimanche 1er juillet 1962. De la sorte, chaque année depuis ce jour-là, les Burundis ont fêté l'indépendance. La colonisation au Burundi a débuté avec la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Elle est un crime contre l'humanité. Le Burundi réclame plus de 43 milliards de dollars de préjudice à la Belgique et à l'Allemagne. Une analyse du géopoliticien Luc Michel.
D'abord, je suis lié au Burundi par un lien charnel. Lorsque la Jamaria a été détruite, je n'avais plus de second pays. En 2016, les Burundais m'ont reçu comme un frère, Kurunziza m'a reçu comme un ami et j'ai intégré ce pays qui aujourd'hui est mon deuxième pays. Je le défends bec et ongle dans tous les complots qui sont ceux des Belges, des Français et des Américains. Et ce n'est pas facile pour moi. Vous devez comprendre que j'habite Bruxelles. Bruxelles, c'est le cœur de la capitale du néocolon belge. Il y a en Belgique un réseau influent qu'on appelle le réseau du Parti libéral. Il a été caractérisé par un journaliste belge de France-Afrique à la Belge. C'est la France-Afrique au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous avez vu dans les images la popularité, le deuil que portent encore aujourd'hui tous les Burundais. Le stade que vous avez vu là-bas, Il n'a pas été construit par des machines, il a été construit à bras d'homme. En 2016, Kourounziza, tous les samedis, participa à sa construction. Il m'a invité un samedi, il m'a fait l'honneur de participer à cela. J'ai laissé tomber le micro et la plume, j'ai pris la pelle et j'ai manipulé le béton. C'est une des journées les plus exaltantes de ma vie. Qu'est-ce que c'est le Burundi aujourd'hui? C'est le cœur de la résistance africaine et du panafricanisme. C'est le seul État totalement indépendant avec la Guinée équatoriale. Il n'y a pas de mission militaire, il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de casque bleu au Burundi. Il n'y a pas non plus, malgré le soutien de la Russie, de troupes russes ou de firmes de sécurité. La Russie, elle a apporté son parapluie diplomatique, elle a apporté son aide économique dans les terres rares et le gaz du Tanganyika, elle a apporté, elle a réarmé l'armée burundaise, qu'elle a amenée au niveau de l'armée du Rwanda, qui est une armée pro-occidentale, et le Burundi, c'est un pays indépendant. Lorsqu'on a essayé de sanctionner économiquement le Burundi, les Européens et les Américains, eh bien les Burundais leur ont dit, évidemment, nous n'avons pas besoin de vous. Le Burundi, il a des infrastructures magnifiques, elles sont construites tous les samedis par les Burundais eux-mêmes, lors des fameux travaux communautaires. Il y a des universités, il y a des routes, il y a des stades, il y a des locaux administratifs. Le Burundi, qu'est-ce que c'est aussi? C'est un État qui a mis au pas les médias occidentaux. Lorsque la BBC ou l'AFP ont tenté de déstabiliser le Burundi, ils ont été interdits d'activité pendant 6 mois au pays et leurs correspondants ont été immédiatement expulsés. On ne comprend pas le Burundi sans expliquer que c'est le legs du colonialisme. Le colonialisme, il s'est servi des rivalités ethniques pour diriger l'Afrique. Il y a eu les Peuls contre les Dogons au Mali et au Niger. Il y a eu les Touaregs contre les Noirs au Mali. Il y a eu, bien entendu, au Cameroun, les anglophones contre les francophones. Au Burundi, c'est la question des Hutus et des Tutsis. Ces deux peuples avaient toujours vécu en bonne intelligence dans une civilisation commune. Leurs langues qui ont divergé depuis 30 ans, elles sont extrêmement proches et leur culture est la même. En 19e siècle, l'Allemagne s'empare de ce qui est alors un seul pays, c'est la colonie du Tanganyika. C'est l'époque des délires de l'anthropologie raciste allemande. On classifie les races, on mesure les crânes, on établit une hiérarchie. Les Allemands déclarent que les Tutsis sont une race supérieure, et les Hutus, une race inférieure. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de délire. Ils déclarent que les Tutsis, ce sont des Caucasiens à peau noire. Vous m'avez bien entendu, des Blancs à peau noire. C'est risible. Malheureusement, pendant tout le colonialisme allemand, cette chose risible, elle va servir à diviser les Hutus et les Tutsis. En 1917, l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. Et la Belgique reçoit le mandat colonial sur un pays qu'on appelle alors le Rwanda ou Burundi. On ne parlait pas encore du Rwanda et du Burundi. Les Belges reprennent les théories racistes allemandes pour gouverner. Ils gouvernent avec les Tutsis contre les Hutus. Quand je dis les Belges, ce n'est pas le peuple belge. Ce sont l'oligarchie financière belge. C'est la cour du roi des Belges, les héritiers, les neveux et petit-neveu du roi Léopold II le Boucher du Congo, ce sont l'Église belge qui a des responsabilités historiques accablantes là-dedans. 1960, c'est l'année des indépendances. Tout d'abord, il y a le prince Rwagasé. C'est l'héritier des luttes de libération coloniale, pas seulement du Burundi, mais du Rwanda et du Burundi. Le Rwanda n'a pas d'héros de l'indépendance nationale parce que c'est un seul peuple à l'époque. Rwagasé, il est assassiné à l'instigation des Belges et des Américains. Pendant 30 ans, c'est la catastrophe dans les deux pays qui ont été déclarés une indépendance séparée, le Rwanda et le Burundi. L'opposition entre Tutsi et entre Hutu, elle conduit à la catastrophe. Au Rwanda, il faut en dire un mot, les Français se sont emparés de la direction du pays à côté des Belges. Foccart, en 1960, a dit que les ex-colonies belges faisait partie du précaré français. Et le Quai d'Orsay et l'Élysée, gouvernent, ça va durer jusqu'à François Mitterrand et Jacques Chirac, ils gouvernent avec les Hutus contre les Tutsis. Au Burundi, il y a une particularité. L'armée du Burundi, elle est constituée d'officiers Tutsis. Ils s'emparent dans une série ininterrompue de putsch militaires du pouvoir. Ce pouvoir, il est soutenu par la Belgique, la cour du roi des Belges et l'Église. En particulier, pendant les années 90, il y a un seul président, Hutu. Il est élu démocratiquement. Il est assassiné lors d'un coup d'état militaire Tutsi par, au bout de 90 jours. Suite à cela, les Hutus, ils prennent avec certains éléments modérés des Tutsis, ils prennent le maquis. À leur tête, il y a Kourouziza. Kourouziza, il est issu d'un couple mixte Hutu et Tutsi. Ce n'est pas un raciste, au contraire, il est partisan d'une société multiculturelle, ce qu'est aussi le parti CNDD-FDD. À la suite des accords d'Arusha en 2004, les premiers, le CNDD-FDD accède au pouvoir. C'est seulement à ce moment-là que le Burundi devient un pays démocratique et multiethnique. La loi réserve un certain nombre de postes au Parlement et au Sénat, à la minorité Tutsi, ils ne sont même pas 10%, mais aussi à la minorité Twa, c'est-à-dire les Pygmées. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La conséquence du colonialisme, il ne faut pas passer dessus parce que c'est au cœur de la question du Rwanda et du Burundi, c'est la question des génocides. Tout le monde connaît le génocide rwandais de 1994. Kagame, qui a joué habilement avec le soutien des Américains, a réussi à faire reconnaître ce génocide et il prétend aujourd'hui que c'est le seul. En réalité, il y a eu une série de génocides au Rwanda, des Hutus contre les Tutsis, puis des Tutsis contre les Hutus, mais surtout des Tutsis contre les Hutus au Burundi. En particulier, il y a le grand génocide de 1972. Le Burundi se bat aujourd'hui à l'international, aux Nations Unies, pour le faire reconnaître au même niveau que le génocide rwanda. La diplomatie rwandaise s'opposant à cela, parce que Kagame veut être le seul héritier détenteur d'un génocide en Afrique. Qu'est-ce que c'est le génocide de 1972? C'est un coup d'État de l'armée et des officiers Tutsis contre les Hutus. On s'attaque massivement à la population. Ils sont chassés de leur maison. Ils sont assassinés. Ils sont exterminés. La famille des leaders actuels du CNDD-FDD, ils sont des familles qui ont été atteintes personnellement lors de ce génocide. La famille de Alain, le ministre des Affaires étrangères Niamitoué, et de l'ambassadeur Willy Niamitoué, le porte-parole du Burundi, elle a fui au Canada en 1972. Moi, je les ai rencontrés au Québec en 2016. Ils n'avaient pas oublié ni pardonné. Eh bien, ce génocide, évidemment, il est constitutif de ce qu'est le Burundi moderne. Il est l'équivalent de ce qui s'est passé au Rwanda. On est en train d'exhumer depuis 3 années la commission Vérité-Réconciliation, des fosses communes. Il y a dedans des centaines de milliers de morts. C'est ignoble à voir, c'est aussi ignoble, je le dis tout de suite, que le génocide rwandais de 1994. Pour moi, les victimes n'ont pas d'ethnie ou de couleur de peau. En Afrique, il n'y a pas de Tutsi ou de Hutu. Il y a des populations malheureuses victimes du colonialisme. Comme en Europe, il n'y a pas un génocide allemand, il y a un génocide de l'oligarchie, les Polonais ou les Russes. C'est pour moi qui suis un humaniste et un internationaliste inacceptable. Le Burundi d'aujourd'hui, il tente de tourner la tâche. C'est un État multiethnique, mais c'est aussi un État, c'est le premier qui a bénéficié du soutien de la Russie. Au moment où on parle de ce soutien en Centrafrique, il ne faut pas oublier celui-là. Tous les dirigeants actuels du Burundi, ce sont des pro-russes. À commencer par mon ami, le général Évariste Ndayishimiye, dont le surnom officiel, c'est le général Neva. La Neva, qu'est-ce que c'est? C'est la grande rivière de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, chantée par Lénine dans ses œuvres. L'actuel secrétaire général du CNDD-FDD, mon ami Révérien, je l'avais rencontré au Burundi en 2016, il m'avait à l'époque expliqué combien, comme moi, il était un pro-russe. Le Burundi, a choisi dès 2016 la main tendue de la Russie. Elle s'en est bien portée. Les Russes ont également amené les Chinois. Ils ont également amené le soutien des Iraniens. Aujourd'hui, plus personne ne reviendra coloniser le Burundi. C'est cela qu'il faut retenir. Les Burundais le doivent à un géant de son histoire. Le deuxième géant de son histoire, avec le prince Rwagasé, c'est mon ami Nkurunziza, dont je pleure la mort chaque jour, qui nous a quittés prématurément. C'était un grand homme. C'était un homme qui avait une vision. C'était un homme qui ne pratiquait pas la géopolitique et les rancœurs du passé. C'est un homme qui pratiquait la géopolitique de l'avenir. Il savait que le Burundi ne pouvait pas se construire sur cette série de génocides, sur cet héritage du colonialisme et du néocolonialisme. Il savait que le Burundi devait être ce qu'en a fait le CNDD-FDD, un État multiconfessionnel et multiethnique. Lorsque je suis arrivé au Burundi en 2007, le premier dignitaire burundais qui m'a accueilli, c'était le maire CNDD-FDD de Bujumbura, à Tutsi. Lorsque j'ai été reçu au Parlement burundais, j'ai fait une grande conférence diplomatique là-bas. Il y avait tous les sénateurs et les députés. À ma table de conférence, la représentante du CNDD-FDD, c'était une sénatrice Tutsi de ce parti. Et je vous l'ai dit, la mère du président Nkurunziza, c'était une Tutsi. Pas de haine, pas de rencontre, mais le slogan qui a été celui d'Afrique Média et avant celui du grand Patrice Emery Lumumba, le panafricanisme, c'est un humanisme.
La RDC va profiter d'une conjoncture plus clémente pour le cuivre. Le pays devrait contribuer significativement à la croissance de 7,8% de la production mondiale et il s'agit de la plus grande contribution pour l'année 2021. Les perspectives intéressantes se dessinent pour le cuivre RD congolais. Depuis un certain temps, la demande mondiale est en train d'exploser littéralement, dit-on. Pour 2021, l'on parle même d'une production mondiale de 21,8 millions de tonnes, soit une croissance de 7,8% en glissement annuel. L'information reprise par l'agence Ecofin vient d'un récent rapport Global Copper Mining, une agence d'analyse. Le pétrole reste le premier contributeur au budget national du Gabon malgré les efforts de diversification entrepris par l'exécutif. Au premier trimestre 2021, le cinquième plus grand producteur d'Afrique subsaharienne a produit 2,49 millions de tonnes métriques de pétrole. Selon la note de conjoncture économique que vient de publier le ministère de l'économie, l'Asie et Pacifique demeurent la principale destination des bruts gabonais à fin mars 2021, rapporte le Nouveau Gabon. La note de conjoncture indique même les proportions des exportations qui soutiennent ce constat. L'Asie et Pacifique demeurent la principale destination des bruts gabonais avec 90% des exportations, le reste étant orienté vers l'Europe. Le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé samedi que l'État du Niger va apporter une aide d'urgence aux populations ayant fui les attaques de Boko Haram et qui ont regagné leur village dans la région de Diffa. Il a fait cette annonce lors d'une conférence de presse qu'il a animée au terme d'une visite de travail de 3 jours dans la région de Diffa. Nous allons leur assurer la prise en charge d'urgence, a indiqué le président Mohamed Bazoum, expliquant que les personnes retournées dans leur village ont des besoins immédiats en nourriture, assainissement, santé et habitat. Nous allons leur offrir des kits contenant y compris des bâches pour se protéger contre les intempéries, a-t-il ajouté, précisant que l'État du Niger va d'abord compter sur ses propres moyens en attendant l'appui des partenaires. Le président nigérien a entrepris une visite de 3 jours dans la région de Diffa. Au Cameroun, les passagers ayant effectué le premier voyage du train express partant de la gare voyageurs de Douala pour la gare voyageurs de Yaoundé sont unanimes. Le confort et le timing sont au rendez-vous. Ils ont manifesté leur satisfaction durant la double cérémonie de mise en service du train express et de l'inauguration des 4 locomotives acquises par l'État. La cérémonie était présidée par Jean-Ernest Masséna Galbihe, ministre camerounais des Transports, représentant personnel du Premier ministre. Au point d'embarquement, c'est près de 500 passagers qui ont répondu présents pour ce premier départ. Le dispositif d'accueil aura facilité l'accès aux wagons. Dans les voitures, le confort est également au rendez-vous.